Bien, alors on y va. Donc on poursuit notre étude de l'israélologie, quelque barbare que soit ce terme, et pas français en plus. Enfin tant pis. Donc on avait commencé l'historique. On s'est arrêté sur la ruine de Jérusalem en 70, et nous avons dit qu'elle avait marqué, cet événement avait marqué pour l'Église le rejet définitif d'Israël, du peuple juif. Tout ce qui est juif est donc dès lors condamné. Et même on arrive dans toute la théologie ultérieure, jusqu'à nos jours, et même jusque dans les milieux évangéliques. Lorsque on étudie le texte de Romains 11 en particulier, où l'apôtre Paul conclut en disant que tout Israël sera sauvé. On va revenir sur ce passage fondamental. Finalement, tous les exégètes, depuis les pères jusqu'au déploient des trésors de dialectique pour prouver que tout Israël ne signifie pas tout Israël. Et que finalement, tout Israël sera sauvé, ça veut dire toute l'Église sera sauvée. Voilà. Alors, on vous donnera l'occasion de voir par quel tour de passe-passe on arrive à ce détournement. Vers les années 160 de notre ère, il y a le plus ancien texte de disputation entre juifs et chrétiens qui nous sera parvenu. Il s'agit d'un dialogue à la manière socratique, n'est-ce pas, entre à la philosophie grecque qui s'était convertie au christianisme et un juif qu'il nomme Tryphon et qui est vraisemblablement celui que le Talmud connaît sous le nom de Rabbi Tarfon, qui était contemporain justement de Justin. Du temps de Justin, qui appartenait à ce qu'on pourrait appeler la Grande Église, il y avait encore des groupes judéo-chrétiens très importants, même si on était après la révolte de Bar Kokhba, et notamment un groupe que l'on appelait les Nazaréens. Et là, Justin, dans son dialogue avec Tryphon, reconnaît que les Nazaréens, ça veut dire juifs, qui croient en Jésus, mais qui gardent aussi un certain nombre de coutumes juives et de pratiques juives, Justin déclare que il n'approuve en aucune manière ces pratiques, que ce soit le Shabbat, que ce soit les fêtes juives, que ce soit la cacheroute, etc., la circoncision. Il condamne à fond ces choses-là. Mais il admet que ces gens peuvent néanmoins être sauvés. Ah, ça c'est quand même quelque chose d'important. Maintenant, quelques années plus tard, nous avons un autre texte chrétien de cette période, on appelle l'épître de Barnabas. Et là, justement, nous voyons qu'entre le dialogue avec Tryphon et l'épître de Barnabas, qui pourtant ne sont séparés que par quelques courtes années, ça, il y a une évolution négative qui s'opère. Là où Justin, n'est-ce pas, admettait que les juifs chrétiens peuvent être sauvés, l'épître de Barnabas parle des juifs en termes tels que tout contact entre l'Église et la synagogue sont devenus impossibles. Puis alors, évidemment, plus le temps passe, plus, en quelque sorte, le délire anti-juif augmente. Au IVe siècle, Ambroise de Milan, qui sera d'ailleurs l'évêque d'Augustin, avant que ce dernier ne devienne évêque d'Hippone, juste après sa conversion, Ambroise de Milan considère qu'il est normal, qu'il est licite pour les chrétiens de brûler les synagogues des juifs. Voilà où on en est à cette période. Maintenant, les Nazaréens, nous aurons l'occasion peut-être de revenir, sont des gens qui vont se trouver rapidement dans une situation absolument impossible. Car justement, répudiés par la Grande Église comme judaïsants, ils sont condamnés par les juifs comme chrétiens. Et il se trouve un petit peu, comme aujourd'hui, un certain nombre de juifs messianiques qui sont à la fois suspects dans les milieux chrétiens parce que, justement, ils veulent en tout cas réhabiliter leur peuple juif et un certain nombre de pratiques tirées de la Torah, et puis en même temps, évidemment, condamnés par les juifs comme étant des chrétiens. Nous savons que après 70, les chrétiens de Jérusalem, les judéo-chrétiens de Jérusalem, les juifs chrétiens, ont fui la ville assiégée pour se réfugier à Pella en Transjordanie. Et il est évident que Pella était une ville où il y avait une communauté chrétienne importante, mais qui était une communauté de non-juifs. Or, cette communauté de non-juifs a accueilli favorablement les juifs chrétiens qui venaient de Jérusalem, preuve qu'à cette époque-là, le divorce n'était pas encore consommé. Mais l'épître de Barnabas est donc, nous avons vu, le premier témoignage de ce divorce. Donc, quelque part, entre la fuite à Pella et l'épître de Barnabas, donc 165 après Jésus-Christ environ, 170, eh bien, le divorce entre les Nazaréens, c'est-à-dire les Juifs chrétiens, et la Grande Église a commencé à se creuser. Maintenant, un petit peu plus tard, nous avons alors l'œuvre de Chrysostome. Chrysostome, qui est un des pères d'Antioche, parmi les pères les plus vénérés de l'Église orthodoxe jusqu'à nos jours. Chrysostome, dont le nom signifie « bouche d'or », car il avait une telle éloquence, dit-on, n'est-ce pas, qu'on serait resté des heures et des heures à l'écouter, n'est-ce pas ? C'était comme si de l'or sortait de sa bouche, d'où le surnom de Chrysostome qui lui a été donné. Eh bien, ce Chrysostome a écrit 8 sermons qui nous sont parvenus intégralement contre les Juifs, et plus particulièrement contre les Juifs chrétiens. Il s'agissait pour Chrysostome de mettre en garde les chrétiens auxquels il s'adressait, qui pouvaient être tentés de fréquenter les synagogues et de fréquenter des chrétiens, donc juifs, qui eux encore fréquentaient la synagogue. Et les 8 sermons de Chrysostome sont de véritables ordures à défaut d'être de l'or. Ce sont de véritables invectives qu'Hitler n'aurait pas répudiées, Arafat non plus, où on apprend que les juifs sont des suppôts du diable, donc thème qu'on retrouvera au Moyen-Âge, et Chrysostome prêche notamment sur le texte de l'Apocalypse, ceux qui se disent juifs et qui ne sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Et la synagogue est donc le lieu privilégié où Satan réside, où Satan a sa demeure. Les synagogues sont pires que des lupanards, s'y rendre c'est donc pire que se rendre au bordel, voilà le genre de propos parmi les plus gentils qu'on trouve dans la bouche d'or, n'est-ce pas, de ce fameux Chrysostome. Je me souviens d'un entretien que j'avais avec le professeur Fusser il y a bien longtemps, et qui me disait que jamais il n'oserait lire à ses étudiants juifs les invectives qu'on trouve dans les 8 sermons de Chrysostome contre les juifs. Maintenant, il est certain que Jésus et ses disciples, en acceptant les païens en tant que tels dans l'Église, prenaient le risque, et ils en étaient conscients, je crois, de créer un certain antisémitisme chrétien. Et la démarche des disciples au conseil de Jérusalem, tel qu'il nous est rapporté dans Acte 15, est d'autant plus admirable que justement, en acceptant les païens en tant que tels, eh bien, ils étaient conscients que là, il y avait ce risque dans lequel, hélas, l'Église chrétienne a succombé. Et se pose alors la question, qui est celle que les Juifs posent constamment, de savoir. Le Nouveau Testament est-il antisémite? Jules Isaac a été le premier à l'affirmer dans son ouvrage qu'il a écrit donc après la Shoah, qui s'appelle « Jésus et Israël ». Et depuis, c'est une question qui n'a cessé justement d'être posée dans le dialogue judéo-chrétien. En fait, quand nous regardons... les accusations d'antisémitisme qu'on trouve par rapport au Nouveau Testament sont de trois types. Premièrement, les textes qui s'en prennent aux pharisiens et aux sadducéens et qui sembleraient, d'après donc certains, incarner l'ensemble des juifs. Il y a ensuite un autre point aussi qui est constamment souligné, c'est l'évangile de Jean qui est considéré par les juifs jusqu'à aujourd'hui comme étant l'évangile le plus antisémite de tous les quatre évangiles, notamment parce que revient constamment dans l'évangile de Jean l'expression « les juifs » et très souvent pour désigner justement ce que les autres évangiles appellent « sadducéens » et « pharisiens ». Et finalement, le mot « juif » semble-t-il dans l'évangile de Jean a un sens péjoratif d'ennemi de Jésus. Par conséquent, on conclut que l'évangile de Jean est le plus antisémite de tous les quatre évangiles. L'évangile de Jean est celui aussi qui insiste le plus sur la passion, qui donne le plus de détails sur la mort de Jésus. Et puis enfin, des textes tels que le fameux texte de Matthieu, que son sang soit pour nous, que ce soit sur nous et sur nos enfants, selon lequel, justement, la nation juive a été jugé à cause de son leadership. Et selon Jules Isaac, et ceux qui le suivent dans ce domaine-là, ces éléments ont été la raison, ont été le terreau sur lequel est né l'antisémitisme chrétien, et notamment justement l'accusation de déicide, l'idée d'une éternelle malédiction d'Israël et la théologie de la substitution qui en a résulté. Il ne faut pas écarter à la légère ces accusations, parce qu'il est vrai, historiquement parlant, n'est-ce pas, que l'antisémitisme chrétien s'est nourri de tels textes et s'est nourri de telles assimilations. Maintenant, on peut encore aller plus loin et remarquer que non pas les auteurs du Nouveau Testament, mais ceux qui ont édité le Nouveau Testament, ceux qui ont publié le Nouveau Testament, c'est-à-dire justement la génération des Justins, de l'auteur de l'Épître de Barnabas, de Chrysostome, etc., eh bien, ont fait tout leur possible, il faut bien le reconnaître, pour déjudaïser l'Évangile et le Nouveau Testament, je dirais. On est quand même aussi pas loin de l'époque de Marcion, qui lui voulait absolument déjudaïser la Bible comme on tente de le faire aujourd'hui dans les milieux qui sont marqués par la théologie palestinienne. Et donc il s'agissait par exemple de au lieu par exemple prenons le titre l'épître aux Hébreux, pourquoi est-ce qu'on parle d'épître aux Hébreux pour ne pas parler d'épître aux Juifs? L'épître aux Hébreux n'est pas titrée elle-même. Le titre « Épître aux Hébreux » a été donné par les pères de l'Église. Ce n'est pas innocent. On parle de l'épître de Jacques, alors que le nom du personnage qui a écrit cette épître est Jacob. Pourquoi a-t-on changé ce nom, justement, pour éviter de faire trop juif? On parlera de Josué et on parlera de Jésus, alors que les deux personnages ont exactement le même nom. Mais il faut absolument que Jésus soit le moins possible juif. On ne peut pas complètement nier le fait qu'il soit juif quand on lit le Nouveau Testament. Mais enfin, il faut, estomper au maximum sa judéité. Donc jusqu'à caviarder et changer son nom. Même chose pour l'épître de Jude, dont le nom véritable est Judas. Mais Judas, ça fait trop juif. Et puis, ça peut aussi amener une confusion avec le Judas Iscariote, que l'on orthographie d'ailleurs différemment pour bien montrer que ça n'a rien à voir avec le bon Judas qui est un des 12 patriarches, finalement, n'est-ce pas ? On met un S à Judas en français pour justement le différencier des autres. On pourrait prendre de multiples exemples comme ça qui montrent cette tentative, non pas par les auteurs du Nouveau Testament, mais par ceux qui l'ont compilé, justement, et qui ont pour but, justement, de déjudaïser au maximum le Nouveau Testament. Maintenant, le Nouveau Testament en lui-même est-il antisémite ? Non. Je crois que ça, c'est absolument clair. Il y a une polémique entre, disons, les chrétiens, les juifs chrétiens, et les juifs non chrétiens à l'intérieur du Nouveau Testament. De telles controverses ne sont pas rares dans la littérature de l'époque. Et on retrouvera facilement dans le Talmud, par exemple, les mêmes invectives que celles qu'on trouve dans la bouche de Jésus par rapport aux pharisiens. L'idée du pharisien hypocrite qu'on trouve dans le Nouveau Testament se retrouve également dans le Talmud. Il y avait déjà, bien sûr, déjà dans l'Ancien Testament, des polémiques très grandes, n'est-ce pas, de la part des prophètes, qu'on lit les invectives d'Amos, de Jérémie, d'Ésaïe, etc. Pas bon. Et d'ailleurs, les antisémites chrétiens feront aussi usage de ces textes-là pour, justement, essayer de montrer que depuis les origines, depuis son appel, Israël a une nature pervertie et absolument qu'on ne peut pas réformer. Quoi. C'est comme ça. On retrouve ça dans l'idée moderne, n'est-ce pas, où tout le caractère pervers, n'est-ce pas, du juif traditionnel est maintenant transféré à Israël en tant qu'État. Israël en tant qu'État est intrinsèquement pervers parce qu'il incarne le caractère perverti depuis les origines du peuple juif. C'est pas exprimé de cette manière-là, mais quand on gratte, on se rend compte que c'est ça qui est sous-jacent, finalement, cette idée qui a traversé l'Occident depuis Chrysostome, par exemple, parce que c'est Chrysostome qui a été le premier à évoquer cette idée de la perversion intrinsèque, génétique, pourrait-on dire, des juifs, irréformable de toute manière. Il n'y a rien à attendre des juifs, et c'est pourquoi il faut nier que Israël, à la fin, sera sauvé. Israël ne peut pas être sauvé parce qu'Israël est intrinsèquement pervers. Alors, donc, il y a cette polémique interne. Une polémique interne qui est vive. Les polémiques à cette époque-là étaient vives. Quand on lit, par exemple, ce qu'écrivent les gens de Qumran contre les prêtres impies, les fils des ténèbres, qui sont pourtant les autres juifs, c'est exactement, et c'est pire même que ce qu'on en trouve dans le Nouveau Testament. Il ne viendrait à l'idée de personne aujourd'hui de prétendre que les gens de Qumran étaient des antisémites. Mais il y avait cette polémique. Et cette polémique, elle se nourrissait justement de l'exemple des prophètes. Jésus était le Fils de Dieu, le Messie, mais il était aussi un prophète. Et par conséquent, il parlait et il agissait comme un prophète en dénonçant justement l'état de son peuple. Seulement, ce qui est remarquable et ce qui diffère justement de l'antisémitisme chrétien et de la polémique qu'on trouve dans le Nouveau Testament, c'est que la polémique de Jésus et des apôtres est une polémique qui est faite dans l'amour. On va célébrer les rameaux dans quelques jours, comme ça, et nous lisons ce passage particulièrement émouvant où Jésus pleure sur Jérusalem. Et manifestement, Jésus aime Jérusalem. Jésus aime son peuple et il a voulu, jusqu'à la dernière minute, éviter à son peuple le jugement qu'il est pourtant amené à prononcer et à annoncer. Nous retrouvons la même chose chez Paul. Il faut lire, par exemple, le début des trois chapitres sur Israël dans Romains 9. Je dis la vérité, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend constamment témoignage. J'éprouve une douleur permanente au sujet de mon peuple, qui sont israélites, qui sont ceci, cela, et il cite tous les privilèges d'Israël. Et il dit, je voudrais, si c'est possible, moi-même être anathème pour eux. S'ils pouvaient être sauvés, moi perdu, je serais prêt à sacrifier joyeusement mon salut pour le leur. On sent toute la douleur et tout l'amour de Paul au moment même où il est obligé parfois d'être extrêmement sévère vis-à-vis de son peuple. Et la polémique du Nouveau Testament est une polémique interne, d'abord, et une polémique qui est faite dans l'amour. Et le problème, c'est que justement cette polémique ensuite devient une polémique externe. Des gens s'emparent de cette, des gens extérieurs au peuple d'Israël s'emparent de cette polémique-là, et il la justement vide de ce qui était son caractère essentiel, il la vide de l'amour pour le peuple d'Israël. Et au lieu de devenir une polémique d'amour dans le style prophétique pour essayer de ramener le peuple d'Israël dans les voies justes, dans les voies de Dieu, ça devient une politique, une polémique de haine, une polémique de mépris, une polémique de destruction et de mort. Et c'est ça la caractéristique essentielle de l'antisémitisme chrétien. C'est à partir du moment où la controverse devient une controverse extérieure au peuple d'Israël qu'elle devient antisémite. Jusqu'alors, on peut dire qu'elle ne l'est pas. Le point justement que j'évoquais tout à l'heure de Jean. Jean n'est pas finalement l'évangile le plus antisémite. Husserl aussi a été frappé de le remarquer. Au début aussi, il pensait que Jean était un antisémite. D'ailleurs, il y a toute une controverse. Jean est-il juif ? Bon, on pensait que oui. Madame Grelot-Bismuth l'a prouvé en dehors de toute controverse possible. Mais pendant longtemps, il y a eu une controverse justement à ce sujet. D'ailleurs, avant Madame Grelot, déjà les manuscrits de la mer morte avaient montré que l'évangile de Jean était véritablement l'évangile juif. Mais l'expression les juifs, alors oui, avant cela, disons que l'évangile de Jean est un évangile où on trouve des textes tout à fait étonnants. Par exemple, il nous a dit ceci, que au moment où le Sanhédrin se rassemble sous la direction de Caïphe pour faire périr Jésus, eh bien, l'argumentation du grand prêtre Caïphe est très intéressante. Il dit ceci. Il est indiscutable que cet homme fait beaucoup de miracles. Très intéressant, parce qu'on retrouve la même idée à la fois dans les écrits juifs tels que le Toldot Yeshu, dont on a parlé, ou bien les textes du Talmud qui font, les rares textes du Talmud qui font allusion à Jésus. Il est indiscutable que cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tout le peuple croira en lui. Les Romains viendront et détruiront notre nation, etc. Il est donc avantageux qu'un seul homme périsse et tout le peuple ne périsse pas. Mais ce qui est intéressant, c'est cette mention, tout le peuple croira en lui. Alors ça laisse supposer que l'impact du message de Jésus était infiniment plus grand que ce que l'on dit, que ce qu'on croit généralement. Et c'est très intéressant de noter que Jean est le seul à noter ce fait qui est quand même extrêmement important. Et bien, on trouve aussi l'idée, ensuite, à la fin même de ce même texte, que Caïphe prophétise sur la mort de Jésus, parce qu'il est grand prêtre, et qu'il prophétise que Jésus allait mourir pour le peuple, mais pas seulement pour le peuple, mais pour rassembler aussi en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Et là, il n'est pas du tout question d'une culpabilité, justement, du peuple juif. Au contraire, il est précisé que Jésus va mourir d'abord pour le peuple d'Israël, chose qu'on retrouve chez Paul, à savoir que l'évangile est d'abord pour le juif et ensuite pour le grec. C'est la même pensée. Alors donc, on revient à cette question, les juifs. Bon, c'est... comment s'appelle cet abbé qui a écrit là sur, beaucoup sur Perjus. Le Perjus qui a le premier émis une hypothèse fort intéressante, que le mot judéoi en grec, que l'on traduit par juif, n'est-ce pas, pouvait signifier judéen, c'est-à-dire habitant de la Judée par opposition à ceux de la Galilée. Et que donc Jésus était galiléen, et il y avait un antagonisme entre les Galiléens et les Juifs, et les Judéens, je veux dire, et que lorsque il est question des Juifs, les Judéoï, eh bien, il faudrait voir non pas les Juifs d'une manière générale, mais les habitants de la Judée. L'hypothèse est intéressante et est à prendre en compte sérieusement. Finalement, après l'avoir fait mienne pendant très longtemps, je ne suis pas certain qu'elle soit absolument fondée. Et ce qui m'a amené un peu à réviser ma position là-dessus, ce sont les œuvres de Joseph, Flavius Joseph. Car finalement, Joseph, quand il écrit à des non-juifs, parce qu'il écrit pour des non-juifs, exactement comme Jean le fait d'ailleurs, eh bien, quand il parle des Zélotes, par exemple, qui sont ses ennemis jurés, Joseph ne peut pas sentir les Zélotes. Pour lui, ce sont des brigands, ce sont des gens abominables, etc. Eh bien, il emploie l'expression « les Juifs ». On retrouve ça aussi dans d'autres textes de l'époque qui sont écrits aussi par des Juifs. Quand on écrit pour des non-Juifs, finalement, il y a cette expression « les Juifs ». Il semblerait que ce soit un procédé, finalement, de la littérature de l'époque. Et peut-être que, justement, la distinction du père Jus n'est pas aussi fondée qu'on pourrait le croire a priori. Et finalement, il ne semble pas du tout que cette expression n'ait un sens péjoratif, quelle que soit l'hypothèse juste, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai, il faut reconnaître, et ça, Jules Isaac a raison, que l'antisémitisme chrétien a utilisé cette expression pour culpabiliser les Juifs de tous les temps et de tous les lieux. Mais quand un examen sérieux du texte de Jean montre que cette extension de la culpabilité des Juifs, entre guillemets, à l'ensemble des Juifs de tous les lieux et de tous les temps, était quelque chose qui était absolument étranger à l'auteur du quatrième évangile. C'est quelque chose qui a été calqué. Ceci dit, dans la mesure où les chrétiens ont fait, eux, cette assimilation, il est difficile de reprocher aux Juifs de ne pas la faire, quoi. Ça, c'est la responsabilité, la culpabilité des chrétiens. Autre point, le fameux procès de Jésus. Le procès de Jésus, dans lequel, justement, les faits seraient rapportés d'une manière tendancieuse, de telle manière à faire tomber la responsabilité sur les Juifs. Et Jules Isaac, notamment, qui a émis cette thèse, insiste notamment sur, alors cette fois-ci le premier évangile, et notamment le fameux cri de la foule, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Bon. On pourrait rétorquer sur un plan théologique, d'abord, comme le fait Jules Isaac, d'ailleurs, dans son ouvrage. Il pose la question, ce cri peut-il annuler la prière de Jésus, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Est-ce qu'aux yeux de Dieu, la prière de quelques peuples, de quelques chefs du peuple aveuglés par la haine, est-ce que cette prière-là a plus de poids que la prière de son Fils ? Je crois que l'argument est absolument imparable. Deuxième réflexion sur le plan théologique, le sang de Jésus est-il une malédiction ou une bénédiction ? Dire que son sang soit sur nous, soit sur nos enfants, c'est dire d'une autre manière ce que Paul dira dans l'Épître aux Romains, alors que Israël sera sauvé. Comment est-on sauvé si ce n'est par le sang de Jésus ? Bon. Maintenant, cette réflexion théologique était évidemment étrangère à ceux qui ont poussé le cri en question. Fusser a apporté une précision très intéressante sur ce cri. Selon le Talmud, les procès criminels, on trouve ça dans le traité Sanhédrin, le Talmud, les deux traités Sanhédrin, une accusation qui pouvait aboutir à un crime capital ne devait être prise en compte, comme c'est écrit dans la Torah, que sur la déposition de deux ou de trois témoins. D'ailleurs, nous trouvons ça aussi dans le procès de Jésus. On fait venir des témoins dont le témoignage ne s'accorde pas. Donc, ça veut dire que leur témoignage ne peut pas être pris en compte. Et finalement, bon, on arrive à un traficotage qui fait que, etc. Mais, justement, et c'est ce que précise Flusser, il est précisé dans la Torah que la main des témoins sera la première à mettre à mort celui qui a été reconnu coupable. De telle manière que si ces témoins-là, eh bien, se sont rendus coupables de faux témoignages, le sang de la victime innocente tombe sur eux. Et à l'époque du deuxième temple, à la fin de l'époque du deuxième temple, c'est-à-dire à l'époque de Jésus, où le mode de mise à mort n'était pas la lapidation, et où par conséquent les témoins n'avaient pas de part à l'exécution, ce qui était le cas de Jésus, les témoins devaient jurer qu'ils avaient dit la vérité, et que s'ils mentaient, le sang de la victime soit sur eux et sur leurs enfants. Et pour Flusser, l'origine de ce cri que nous retrouvons dans le texte du Nouveau Testament, dans Matthieu en particulier, serait justement cette affirmation qui était légale dans tout procès criminel, où les témoins devaient dire se porter garant de la vérité de leur témoignage et en portant une imprécation sur eux-mêmes, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Bon. Alors, s'il en est bien ainsi, et il semble bien que l'argumentation de Flusser soit convaincante, ça limite considérablement l'étendue de ce cri. Ça voulait dire que les auteurs de l'accusation seuls, étaient touchés par cette malédiction. Et que par conséquent, étendre cette malédiction au peuple d'Israël de tous les temps, de tous les lieux, n'est pas tenable. Ceci dit, l'évangéliste Matthieu, manifestement, accorde une importance plus grande à ce cri-là. Est-ce pour autant que il étend au peuple juif de tous les lieux, de tous les temps, cette malédiction? Manifestement pas. Mais Matthieu avait vraisemblablement, et ça aussi Flusser l'a montré, avait vraisemblablement dans l'idée la destruction de Jérusalem. Et on trouve ça, par exemple, chez Joseph Flavius. Joseph Flavius affirme que le temple a été détruit et la ville de Jérusalem a été détruite en 70 à cause de la mise à mort d'hommes justes dans Jérusalem et notamment de Jacques, le frère de Jésus, le fameux Jacob dont nous parlons tout à l'heure. Jacques, qui était un homme juste, pieux, respecté de toute la société israélienne et qui, profitant, le grand prêtre Ananias, profitant de la mort du roi Agrippa Ier et par conséquent de la vacance du pouvoir, l'a fait précipiter du haut du temple. Et à cause de cela, donc, le temple a été détruit, nous dit Joseph. Donc l'idée que le châtiment de Jérusalem est venu justement comme conséquence de la mise à mort d'hommes pieux est une idée qu'on trouve déjà dans le judaïsme de cette période-là. Et on trouve une idée semblable dans l'évangile de Luc. Toujours quand Jésus est conduit au supplice, et que les femmes le suivent en se lamentant sur lui. C'est très intéressant d'ailleurs là aussi, quand on étudie ces textes, parce que l'on voit justement que contrairement à une image épinalesque qu'on retrouve même chez les gens qui ne sont pas antisémites, mais qui véhiculent les stéréotypes, n'est-ce pas, depuis des générations et des générations, qui eux ont été forgés de toutes pièces par des gens qui savaient fort bien ce qu'ils faisaient, et qui étaient eux des antisémites, ça. L'idée que lorsque Jésus rentre dans Jérusalem au jour des rameaux, toute la foule l'acclame, etc., et que cette même foule qui l'acclamait le jour des rameaux le maudit le jour du vendredi saint, attirant sur elle la malédiction. Bon. Ça, c'est historiquement intenable, simplement quand on lit le Nouveau Testament. Et justement, parce que, comme le dit Déjà, Jean, j'ai cité le texte tout à l'heure, tout le peuple croira en lui. Et Jules Isaac lui-même a montré comment le procès de Jésus avait été expédié à la hâte pour éviter justement qu'il y ait un soulèvement du peuple en faveur de Jésus. Tout devait être bâclé avant la Pâque parce que justement bien, on craignait une insurrection en faveur de Jésus. Donc, c'est pas du tout la même foule qui a clamé Jésus le jour des rameaux et celle qui le maudissait le jour du Vendredi Saint, contrairement à l'image épinalesque qu'on trouve dans beaucoup de sermons émouvants sur la mort de Jésus. Bien. Maintenant, comme nous montre l'évangile de Luc aussi est très intéressant à ce niveau-là, nous montre qu'il y avait deux foules. Il y avait deux foules à Golgotha. Il y avait la foule des ennemis de Jésus, des grands prêtres, enfin foule, je ne parle des milliers de personnes. Hein. Foule, c'est un sens groupe de personnes, disons. Hein. Effectivement, qui se moquaient de Jésus dans les thèmes que l'on sait, descendre ta croix, etc. Si tu es le fils de Dieu, tu as sauvé les autres, tu sauves toi toi-même, etc. Et il y avait la foule des femmes et de ceux qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, qui se tenaient de loin et qui regardaient en se frappant la poitrine. Et ces femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée l'ont suivi jusqu'au calvaire, jusqu'au Golgotha, en se frappant la poitrine et en se lamentant. Et Jésus dit, à un moment, il s'arrête, alors qu'il est en route vers le Golgotha, il se tourne vers ces femmes, il leur dit « Fille de Jérusalem ». Très intéressant comme expression, « Fille de Jérusalem ». C'est-à-dire, au travers de ces femmes, c'est à Jérusalem qu'il s'adresse. « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Que son sang soit sur nous et sur vos enfants. Car des jours viendront où Jérusalem sera détruit. » Jésus annonce la ruine de Jérusalem. « Car si l'on fait ces choses au bois vert, » le bois vert dans la tradition rabbinique, c'est le Messie. Mais si c'est le bois vert. Que ne fera-t-on pas au bois sec? Ça veut dire à vous et à vos enfants. Donc ici, Jésus, dit Fousser, donne une dernière prophétie sur la ruine de Jérusalem, qui aura lieu une génération après. C'est-à-dire, justement, qui touchera eh bien, les enfants de ces femmes qui sont en train de se lamenter sur lui. Donc, que son sang soit sur nous et sur nos enfants, c'est l'annonce de la ruine de Jérusalem en 70. Et puis ça suffit. C'est quand même suffisant pour le peuple d'Israël. Ça ne va pas au-delà. Ça se limite à cela. Et Jésus dit cela avec larmes, manifestement. Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Jésus le dit avec larmes. Il ne s'en réjouit pas. C'est ce qui va se passer, mais j'aurais tellement voulu que ce soit autrement. Alors on ne peut pas dire que ces textes-là soient antisémites. Ce sont des textes réalistes, mais non pas antisémites. Bon, donc ça c'est un point déjà très important. Maintenant, il y a aussi d'autres textes tout à fait intéressants aussi à prendre en compte. Et par exemple, vous savez, on a longuement parlé en histoire d'Israël des disputations qui ont eu lieu au Moyen-Âge. Ou à partir des textes rabbiniques, n'est-ce pas, on a essayé de prouver que Jésus était le Messie. Déjà, on trouve ça chez Tryphon, dans le dialogue avec Tryphon. On trouve ça, bien sûr, dans la disputation de Barcelone et celle de Tortosa. On trouve ça aussi dans des disputations mineures. On trouve ça aussi dans des textes modernes. Par exemple, il y a un missionnaire luthérien suédois qui a été longuement en poste en Israël, qui a fait un travail de ce type-là, et qui a recueilli dans les textes rabbiniques tous les textes par lesquels il est possible de prouver la messianité de Jésus. Il y a un pasteur qui s'appelle Risto Santala, qui donc a fait le même travail qu'on trouve déjà chez Tryphon, avec évidemment quand même une objectivité et un manque de, une sympathie, disons, pour Israël, qui n'est pas à mettre en doute du tout. Et notamment, on trouve des textes déjà qui montrent que dans la tradition juive, déjà au IIe siècle avant Jésus-Christ, en Provence, avec un homme comme David Kimchi, le fils de la femme de Genèse 3, c'est pas, qui écrasera la tête du serpent, est assimilé justement avec le Messie et avec la postérité d'Abraham. Bon, il y a de très nombreux textes aussi qui montrent qu'à l'époque de Jésus, le serviteur de l'Éternel d'Ésaïe 53 était assimilé avec le Messie. Ce n'est qu'en réaction contre le christianisme que le judaïsme a essayé d'interpréter Ésaïe 53, qu'on ne lit d'ailleurs pas dans la synagogue, à cause de l'usage qu'en font les chrétiens, avec le peuple d'Israël. Le serviteur serait Israël qui souffre pour le péché des nations. Bon, déjà Nachmanide, à la suite de la disputation de Barcelone en 1263, a montré combien cette assimilation était difficile à tenir, n'est-ce pas? Et les Targum, par exemple, et même la Kabbale de Safed, reconnaît que le serviteur d'Ésaïe 53, pourtant on est bien après le christianisme, on est même bien après la disputation de Barcelone, n'est-ce pas? Eh bien, ça s'applique au Messie. Et la Kabbale de Safed, la Kabbale de Luria, dit ceci, n'est-ce pas? Que celui qui ne veut pas admettre que le Messie souffre pour ses propres péchés devra souffrir pour lui-même pour ses propres péchés. On trouve ça déjà aussi dans le Targum de l'Unité. Et finalement, ce que nous pouvons voir dans la polémique de Paul contre la Torah, par exemple, ce n'est pas justement une mise en cause ni du peuple juif, ni du caractère pervers de la Torah, parce que finalement on arrive à cette idée aussi qui est celle qu'on trouve dans les milieux chrétiens, chez les pères de l'Église, n'est-ce pas, que le peuple d'Israël est tellement perverti que Dieu leur a donné une Torah qui elle-même est pervertie. Et que, par conséquent, les chrétiens en sont complètement libérés, complètement dégagés. La Torah n'a rien à leur apporter parce qu'eux, ils sont d'une autre nature. Ils sont le peuple saint, que le Seigneur s'est formé de toutes les nations, des gens exceptionnels, etc. Il faut remarquer que Paul nous dit exactement l'inverse. Il nous dit la Torah est juste et bonne, le commandement saint, juste et bon. Par conséquent, Dieu n'a pas donné une Torah pervertie au peuple d'Israël. Pas du tout. Mais si Paul polémique parfois contre un certain usage de la Torah, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir d'ailleurs, ça n'est pas à la Torah elle-même qu'il s'en prend, mais à la nature perverse de l'être humain, pas seulement du juif, mais de tout être humain. Et qui fait justement que le péché peut se servir de quelque chose qui est bon, qui est spirituel, la Torah et le commandement, pour faire une œuvre de destruction. Et bon, maintenant, il y a aussi le problème de la nature de Jésus, de la nature divine de Jésus. Et là, évidemment, le peuple juif est fustigé pour ce faire. Mais là aussi, il y a quelque chose. Bon, c'est vrai que le peuple juif est en faute. Ça, c'est une chose que le Nouveau Testament affirme et réaffirme. Néanmoins, dans certains milieux chrétiens, et notamment justement les orthodoxes, peut-être plus que d'autres, la doctrine de la Trinité a parfois conduit à des excès. Et le Nouveau Testament, si on le prend en dehors justement, comment dirais-je, d'une théologie trinitaire dont finalement ont hérité toutes les églises chrétiennes, eh bien, affirme d'une manière absolument certaine que, et là nous rejoignons Nicée, que Jésus est de la même nature, de la même substance, comme dit le texte de Nicée, homo iussos, au Père. Donc, de nature divine totale. Mais contrairement à une certaine théologie chrétienne, le Nouveau Testament affirme que le Père est plus grand que le Fils. Pas seulement dans l'incarnation du Fils, mais éternellement. Et Paul, quand il écrit, prend bien soin de distinguer Dieu et Jésus. Quand il dira, par exemple, il y a un, pour nous, il y a un seul Dieu et un seul Seigneur. Alors, c'est très intéressant cette expression, car Seigneur, c'est aussi un titre qu'on donne à Dieu. Par conséquent, quand Paul dit « il y a un seul Seigneur », il dit « il y a un deuxième être de nature divine, totalement divine. » Et le Père et le Fils ne se confondent pas. Et comme dira Jésus, « le Père est plus grand que moi. » Et c'est aussi ce que Paul réaffirme. Et là aussi, il y a des choses parfois curieuses dans une certaine théologie chrétienne. Bien, il faut aussi noter le fait qu'après la révolte de Bar Corba, il y a aussi évidemment un fossé qui se creuse. D'ailleurs, les dialogues de Tryphon viennent après cette période-là et ne sont certainement pas exemptes de l'influence de cette révolte de Bar Corba. Et puis, arriver à cette idée qu'on trouve dans beaucoup de milieux chrétiens que l'histoire d'Israël est une histoire sainte. Bon, c'est ce qu'on enseigne dans le catholicisme. Et cette histoire sainte commence avec les origines, avec la création du monde, et s'arrête à la fin du Nouveau Testament. Et si vous prenez, par exemple, même dans le milieu des ouvrages, par exemple un atlas biblique, vous constaterez que c'est exactement le schéma que les atlas bibliques suivent. Ça commence avec la création du monde et ça s'arrête avec les voyages de Paul. Terminé. Ça veut dire qu'à partir de cette période, l'histoire d'Israël n'est plus une histoire sainte. L'histoire d'Israël ne compte plus. Ça veut dire, Dieu n'agit plus au travers d'Israël. Or, quand nous regardons l'histoire d'Israël, et quand je dis l'histoire d'Israël, ce n'est pas seulement l'histoire sainte qui va jusqu'à Paul, mais l'histoire qui va depuis Paul jusqu'à nos jours. Il faut remarquer que le Seigneur a agi dans l'histoire d'Israël. Et ça, c'était le chapelain de Frédéric de Prusse qui l'avait reconnu. Vous savez, dans la fameuse phrase célèbre, quand le roi lui demande une preuve en deux mots de l'existence de Dieu, qu'il répond « c'est les Juifs ». Le chapelain de Frédéric II avait compris que l'histoire d'Israël était restée, après Paul, une histoire sainte. Malgré tout. Et maintenant, justement, on va faire une autre proposition. Non seulement l'histoire d'Israël est restée une histoire sainte, c'est la raison pour laquelle nous l'étudions d'ailleurs, dans le cadre de ce type d'étude, mais même, alors là nous allons faire une proposition qui est énoncée avec crainte et tremblement, mais qui me semble absolument juste. Le judaïsme a gardé certains éléments de vérité plus que le christianisme. Je répète. Le judaïsme a gardé certains éléments de vérité plus que le christianisme. Alors je sais que pour dire une chose pareille, je mérite d'être brûlé par l'inquisition. Mais comme dit l'autre, je persiste ici. Alors, bien sûr, quand je dis ça, ne nous leurrons pas, ne nous méprenons pas. Je ne veux pas dire que tout ce que Dieu dit le judaïsme est supérieur à ce qu'on trouve dans le christianisme. Je dis certains éléments. Nous aurons l'occasion de voir de quels éléments il s'agit. Et finalement, comme je disais à un ami juif il y a déjà de nombreuses années, pour nous chrétiens, la contestation d'Israël est extrêmement importante. Que Israël conteste notre foi, c'est extrêmement important. C'est une bénédiction de Dieu pour le christianisme. Pourquoi ? Parce que ça nous empêche de tomber dans certains excès. Quand le judaïsme nous dit « Vous êtes des trithéistes qui adorez trois dieux, donc finalement vous n'êtes pas de vrais monothéistes. » Il a tort, le judaïsme, de nous dire ça. Mais c'est bien qu'il nous le dise. Parce que nous avons une tentation de trithéisme. Et comme je disais tout à l'heure, certaines formulations dogmatiques qu'on trouve à partir du symbole de Nicée, où finalement, il n'y a plus de hiérarchie dans la Trinité, où le Père et le Saint et le Fils sont exactement mis sur le même plan, ça ne colle plus, ça ne va plus. Et là, il est bon que nous entendions le judaïsme qui nous dit « Attention, n'allez pas trop loin. » Et la contestation du judaïsme est une contestation qui nous oblige à affiner, à nuancer nos affirmations dogmatiques. Et plutôt que de condamner Israël, nous aurions mieux fait justement d'écouter un petit peu ce qu'il a à nous dire. Non pas pour accepter tout ce qu'il a à nous dire, bien sûr. Il y a des choses qui sont inacceptables. La mise en question de la divinité de Jésus par le peuple d'Israël est inacceptable. Et ce point-là n'est absolument pas négociable d'un point de vue chrétien. Mais par contre, cette contestation du peuple d'Israël de la divinité de Jésus est un garde-fou qui dit « Attention, attention, quand vous affirmez, vous, chrétiens, la divinité de Jésus, eh bien, restez dans ce qui est juste, restez dans ce qui est biblique, restez dans ce qui est néo-testamentaire. » Il suffit de relire 1 Corinthiens 15, on lit à l'époque de Pâques, pour remettre les choses en place à ce niveau-là, et voir que certaines affirmations dogmatiques qu'on trouve, par exemple, je ne sais pas si ce n'est pas dans la confession de foi de Westminster ou d'Athanase, n'est-ce pas, symbole d'Athanase, c'est ambigu, ça va trop loin, ça laisse supposer, alors que la Bible nous dit, Paul nous dit qu'à la fin, quand il aura vaincu le dernier ennemi, la mort, le Fils lui-même sera éternellement soumis au Père. C'est pas moi qui le dis quand même. Le Fils sera éternellement soumis au Père, afin que Dieu soit tout en tous. Et bien ça, vous avez des gens qui vous diront non, c'est pas acceptable. À cause de formulations dogmatiques qui sont celles qui ont été élaborées dans les grandes controverses christologiques du 4e et 5e siècle, n'est-ce pas, et qui ont abouti à des affirmations qui sont complètement erronées. Par exemple, si nous acceptons alors sans réserve aucune le symbole de Nicée-Constantinople, les affirmations ensuite des conciles suivants, d'Éphèse, de Chalcédoine, on le fait avec des pincettes. Qui est une nature humaine et une nature divine chez Jésus, ça ne fait absolument aucun doute. Mais comment s'articulent ces deux natures? Comment est-ce qu'elles se confondent, est-ce qu'elles ne se confondent pas, est-ce que l'une prend le pas sur l'autre, etc. Qui peut le dire? Qui peut le savoir? N'est-ce pas? Et là, il nous semble que la spéculation chrétienne est allée beaucoup trop loin. On est allé même jusqu'à s'entretuer pour des choses comme ça. Écoutez, quand même, c'est un peu abusif. Et là, justement, la contestation d'Israël est là pour nous dire, écoutez, un peu d'humilité. Qui peut savoir ce qu'était l'articulation des deux natures du Christ? Maintenant, ceci, il faut aussi dire un autre point très intéressant, très important, c'est que la théologie juive actuelle est une théologie souvent par réaction antichrétienne. Et ça aussi, il faut en tenir compte. Et par conséquent, il faut opérer un correctif constant. Et ce correctif, c'est de remonter aux origines. Dire oui, voilà ce qu'on pense aujourd'hui au sein du peuple d'Israël. Mais que pensait-on avant le christianisme? Et on peut le savoir, sérieusement, grâce maintenant, entre autres, au manuscrit de la Mer Morte, mais aussi à toute une littérature qu'on peut redécouvrir de cette période-là. Et notamment aussi au travers des Targum. Et bon, il y a aussi, par exemple, toute une réflexion qu'on peut faire à partir de, sur le baptême. Il est très intéressant de noter qu'on a complètement erré sur le baptême au point de faire en sorte qu'il soit maintenant un sacrement ex opere operatum, qui opère en lui-même, sur des, la personne de petits-enfants. Là, on est en pleine déviation doctrinale, ce qui ne se serait pas produit si on avait, à partir de la théologie d'Israël, essayé de comprendre un petit peu ce qu'est le baptême dans le Nouveau Testament. Et comprendre le baptême, c'est pas possible, que voulez-vous, c'est absolument impossible si on n'a pas une idée de ce qu'est la théologie juive du baptême. Ça, on aura l'occasion d'y revenir également. Mais voilà des points, justement, sur lesquels la confrontation avec le judaïsme est essentielle pour rétablir les choses. Peut-être que j'en parlerai justement un peu dimanche, au moment de, des baptêmes. Mais enfin, ça, c'est un des points tout à fait intéressants. Et bon, qu'est-ce qu'on peut dire encore là-dessus? Oui, il y a un autre point aussi qui est en suspens dans l'histoire de la théologie chrétienne par rapport à Israël. À partir des chapitres 7, 8 et 9 de l'Épître aux Hébreux, on a établi justement la théologie de la substitution. Où il est question, parce qu'il est question de l'abolition. D'ailleurs, là aussi, il y a un problème de traduction de ce mot. Mais enfin, disons, selon la théologie classique, si vous prenez un commentaire de l'Épître aux Hébreux et que vous lisez ces commentaires sur le chapitre 8, 9 et, 7, 8 et 9, eh bien, vous entendrez dire l'Ancienne Alliance est abolie par la Nouvelle Alliance, donc l'Ancien Testament est aboli par le Nouveau Testament. Nouveau Testament signifiant Nouvelle Alliance. Par conséquent, tout l'Ancien Testament est bon à jeter aux orties. Et puis, enfin bon, ça c'est un peu caricatural, je ne le dis pas de cette manière-là, mais enfin c'est un petit peu ce qui ressort. Donc le peuple de l'Ancienne Alliance, Israël également. Bon. Or, justement, le mot grec que l'on traduit en général justement par aboli, il y a donc abolition de l'Ancienne Alliance, d'une alliance qui est devenue caduque, implique non pas une abolition, mais une transformation. Vous voyez que ça change pas mal la perspective. Il y a transformation. Mais transformation, ça ne veut pas dire que les choses premières disparaissent pour autant. Ça veut dire qu'elles sont transformées, qu'elles sont transfigurées. Ça veut dire qu'il y a ajustement à une situation nouvelle où Jésus est le grand prêtre de cette réalité nouvelle. Ça ne veut pas dire que l'ancienne constitution est abolie, mais qu'elle est adaptée à une réalité nouvelle. Elle est amendée par Jésus, et c'est très intéressant de voir que justement dans l'Épître aux Hébreux, en fin de compte, Jésus s'identifie à Israël. Il y a une identité entre lui et le peuple. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que l'Épître aux Hébreux s'adresse à des Juifs. Je sais que le terme Épître aux Hébreux aurait tendance à nous le faire oublier, mais s'adresse à des Juifs. C'est comme ça. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir, si vous voulez. Et donc, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ? Dans certains manuscrits. Ah, oui. Exactement. Absolument. 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 Et tu as 100% raison de dire qu'il y a eu un véritable traficotage de certains manuscrits du Nouveau Testament, justement pour essayer de déjudaïser et de culpabiliser ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors bon, aujourd'hui, grâce à l'abondance des textes des manuscrits du Nouveau Testament, on peut dénicher les supercheries, mais celle que tu notes, effectivement, elle n'a pas été corrigée. Elle n'a pas été corrigée, même dans le texte modèle. Parce que ça ferait trop gros, ce serait vraiment gênant pour que Barabbas. Mais il ne faut quand même pas oublier que le nom de Yeshua était un nom extrêmement courant. C'était comme, je sais pas, comme Pierre, comme Jacques, comme Jean dans le langue moderne. Il n'y a rien de drôle à ce que Barabbas ait aussi porté le nom de Yeshua. Des grands prêtres aussi ont porté ce nom. Autre chose ? Bon, les traductions de nos Bibles, en général, maintenant, sont très fiables, quoi. Sont très, très fiables. Enfin, disons, les textes sur lesquels on se base, quoi. Les textes, ensuite, les traductions, elles sont différentes valeurs, d'inégales valeurs selon la valeur des traducteurs, ça, c'est... Mais, disons, les textes sur lesquels on travaille maintenant, c'est-à-dire, par exemple, tous les traducteurs travaillent sur l'édition Nestlé du Nouveau Testament. Bon, alors je sais bien, tu as lu certainement dans la Revue Réformée là, le texte d'Alain. Comment ça s'appelle ? Le pasteur, là, qui est professeur. Bon, il se penche un peu sur. Il nuance un peu, il dit bon, le texte de Nestlé, il pose un point d'interrogation. Ce qu'on fait en quelque sorte, si tu veux, dans un travail de critique du texte, on met tous les différents documents qu'on a sur la table. Et on les compare, et puis on dit, bon, telle leçon, comme on appelle ça en critique, c'est-à-dire telle variante, en quelque sorte, manque dans tel texte, par contre, famille de manuscrits, on remonte dans cette famille-là, donc il y a dû y avoir une erreur de copiste à tel moment, et si bien que toute cette famille de manuscrits comprend cette leçon-là, donc la leçon véritable est celle-là. Bon. Personnellement, je pense que 90%, 90 fois sur 100, c'est valable comme méthode. Quoi. Maintenant, comme le dit ce professeur de l'université de la faculté d'Aix-en-Provence, parfois, il faut tenir compte quand même d'un problème de chronologie. Et ça, on ne le fait pas. Par exemple, on met tous les textes sur la table, si tu veux, comme si ils n'étaient pas, pas datés, quoi. En fait, par exemple, on prend ce qu'on appelle les Byzantins, les Alexandrins, etc. Parce que finalement, c'est deux écoles, celle d'Alexandrie et les Byzantins, c'est-à-dire celle d'Antioche. Hein. Il faut tenir compte aussi des dates auxquelles ils ont été écrits. Bon, enfin, ça, c'est des problèmes de critique, c'est technique, disons, c'est technique. Mais bon, ça mis à part, on doit affiner encore. Quoi. On n'a pas encore un texte qui est critiquement 100% sûr. Donc il y a encore des problèmes de nuances. Mais je crois quand même que dans le 90%, on est à un texte sûr à 90%, au moins 90%. Donc il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Quoi. Pas trop de soucis. Maintenant, comme le disait Pierre-Yves, qu'on sache que Barabbas s'appelait Jésus, qu'on ne le sache pas, ça n'enlève finalement pas grand-chose. Ce n'est pas un truc essentiel. Bien, qui veut dire autre chose ?